Depuis toujours, j'accumule les traces pour lutter contre mon angoisse de la disparition.
Oui, vous êtes bien sur le répondeur de Grégoire Denis. Veuillez rappeler plus tard.
C'est sûrement pour ça qu'un petit matin d'octobre, mon ami Béné m'a demandé de faire quelque chose avec ou autour de son fils Grégoire.
Mais j'ai pas envie d'en parler non plus, ça va être compliqué pour toi.
Car qui était-il vraiment ?
Il était double en réalité.
Timide.
Désespéré.
Et de quoi est-il mort ?
C'est un garçon qui avait une vraie fragilité.
Deux questions obsédantes, auxquelles j'en ajoute une troisième. Est-ce qu'on peut s'en sortir, un jour ?
On se voit pourquoi ?
Alors, on se voit pourquoi ?
Même pas mort, une série des pieds sur terre de Sophie Simoneau et Sylvain Richard à retrouver sur le site de France Culture et l'appli Radio France dès le 10 octobre.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
On pensera certainement, en écoutant les récits d'aujourd'hui, aux lourdes accusations qui pèsent sur le psychanalyste Gérard Miller, figure médiatique qui a longtemps donné son avis à la télévision et à la radio. Présumé innocent, il faut le rappeler, le parquet de Paris a pourtant requis sa mise en examen pour 5 viols, dont 4 sur mineurs, et 2 agressions sexuelles entre 2000 et 2020. De nombreuses autres femmes ont témoigné dans la presse, notamment, et certaines des violences sexuelles auraient eu lieu au cours de séances d'hypnose. On pensera donc sans doute à Gérard Miller, qui conteste les faits d'ailleurs, mais il faut aussi retenir le chiffre de 5 à 10% des professionnels de la sphère des soins psychiques qui auraient commis des transgressions avec passage à l'acte sexuel, comme on dit dans le langage psy, au moins une fois dans leur carrière, 5 à 10%. Donc, c'est une autrice américaine qui s'appelle Suzanne Baur, qui est citée dans un article du Monde qui a produit ce chiffre. Le même quotidien a produit lui-même une enquête très documentée et recensée en France des dizaines d'affaires de femmes victimes de professionnels de la santé mentale. On écoute tout de suite deux récits assez différents, mais je dois souligner quand même en préambule que dans une écrasante majorité des cas, la psychanalyse, les psychothérapies, y compris l'hypnose et les traitements psychiatriques, sont d'un immense secours quand ils ne sauvent pas tout simplement des vies. Reportage Anna Benjamin.
Je m'appelle Laure, j'ai 50 ans, je suis comptable. J'habite en région parisienne. Mon enfance n'a pas été évidente. Voilà, j'ai grandi dans un foyer plutôt instable, avec des violences surtout psychologiques. Et j'ai subi une agression sexuelle de la part d'un voisin de mes grands-parents. Et j'avais une telle peur de mon père que j'en ai jamais parlé. Je l'ai toujours gardé au fond de moi. Et comme tout enfant, en fait, on passe à autre chose, on continue de grandir. On ne se rend pas compte que finalement, une telle agression peut avoir un impact dans notre vie d'enfant, dans notre vie d'adulte. Donc, j'ai commencé à consulter en 2015. Et à ce moment-là, je sortais d'une relation très toxique avec une personne qu'on appelle pervers narcissique. Et donc, pour me sortir de cette emprise, je me dis, il faut que je consulte un psychiatre. Alors, quand je le rencontre, ce psychiatre a 60 ans. Petit à petit, je me défais de l'emprise que je peux avoir avec ce monsieur qui me faisait du mal. Et au fil des séances, je me rends compte que le coup de cœur que j'ai eu dès la première fois que j'ai vu ce psychiatre, en fait, se renforce. Donc, je ne comprends pas trop ce qui se passe dans moi. Et en fait, ça me faisait un tel poids au fond de moi que je décide de me confier. Après tout, c'est le psychiatre et je veux comprendre tout ce que je peux ressentir. Et donc, je lui dis, écoutez, j'ai quelque chose à vous avouer, c'est pas évident. Je fais un transfert amoureux sur vous. Il s'attendait pas à ça. Il est un petit peu déboussolé. Et il me répond, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je lui dis, écoutez, c'est vous le médecin, je ne sais pas. Il faut que vous m'aidiez à comprendre ce qui se passe. Donc, il me parle de câlinothérapie, qu'on pourrait mettre en place cette câlinothérapie. Il ne me dit pas en quoi ça consiste et moi, je n'ose pas lui poser la question. Et après, je vais sur un blog d'une psychologue et je lui pose la question. Et elle me dit, la câlinothérapie en groupe, oui, mais seul, c'est à fuir. Je reviens vers lui 15 jours après, on n'en parle plus. Les séances continuent, tous les 15 jours, des séances normales. Mais par contre, je trouve un changement de sa part. Il devient un peu plus tactile, la façon dont il serre la main, et voilà, me toucher l'épaule, le cou. Et puis, ça lui arrivait de prendre de mes nouvelles en dehors des consultations pour savoir comment s'étaient passés mes examens que je passais pour devenir comptable. Et j'étais contente de recevoir ces messages-là, mais le souci, c'est que vu que j'avais un coup de cœur pour ce psychiatre, ça alimentait le transfert que je pouvais avoir pour lui. Je voyais bien qu'on sortait du cadre de la psychothérapie, mais j'attendais qu'il mette des limites. S'il ne les met pas, les limites, c'est qu'il ressent ce que je ressens pour lui. C'est ce que j'imagine. Et des fois, il m'envoie aussi des signaux contradictoires, comme après certaines séances. Il me dit, c'est l'heure de rentrer, c'est l'heure de faire à manger à tes enfants. Et puis des fois, c'était aussi, il m'appelait, je le rappelais 2-3 minutes derrière, et c'est comme s'il s'était volatilisé, il ne répondait pas, quoi. Et en octobre, je vais à une consultation et impossible de parler pendant l'heure. Je ne sais pas, je suis prise d'une colère. Et ça, il se rend compte, en fait. Il se rend compte. Il n'arrive pas à désamorcer la bombe qu'il y a en moi. Alors, en fin de séance, il me demande si j'accepte qu'il me prenne dans ses bras. Et je dis oui. Et donc, je suis dans ses bras. Alors, je ne suis pas très à l'aise, mais ça me fait un bien fou. Il me caresse le dos. Et je repars de la consultation un peu mieux. Donc, je reviens, 15 jours après. Et en fin de séance, il me demande, et je lui dis oui pour le petit câlin. J'appelle ça un câlin debout. Donc, il me prend dans ses bras et ça me fait toujours autant de bien. Et puis, au mois de novembre, fin de consultation, il me propose pareil, le petit câlin debout. Et il me dit, si vous voulez, j'ai un créneau de libre demain pour un câlin plus long. Et forcément, j'accepte. Et puis, je le vois tous les 15 jours. Il me propose un câlin dès le début des séances et je lui dis oui. Donc, c'est à ce moment-là que nos séances de psychothérapie commencent à être des séances de câlinothérapie. En janvier 2020, donc il devient de plus en plus tactile. Il me demande s'il peut voir ma poitrine et je lui dis non. Il me répond, quand tu seras prête, il n'y a pas de souci. Donc on continue, pareil, c'est pas des séances de câlinothérapie. Je commence petit à petit à enlever le pull, le sous-pull. À un moment donné, je suis en juste mes sous-vêtements. On se voit toutes les semaines et de plus en plus longtemps, jusqu'à 2 heures de séance. Et donc, c'est là que la fois d'après, les rapports sexuels. Mais je me rends compte que lorsqu'il me dit « c'est pour toi », je me rends compte qu'il le fait plus pour lui. Puisque quand je lui dis non, où je lui fais comprendre que je ne veux pas, il me dit « mais qu'est-ce que tu fais de mon plaisir ?» Quand je veux l'embrasser, il prend ma tête, mon visage, entre ses deux mains pour tourner mon visage et me faire un bisou sur la joue pour pas que je l'embrasse. Je sentais un tel vide, et d'ailleurs lors des consultations dites normales, je lui disais « mais d'où vient ce vide ?» Pourquoi j'ai ce vide au fond de moi? Et il m'a jamais répondu, à part me faire un joli sourire. J'ai jamais de réponse de savoir qu'est-ce qui se passe. Jusqu'en juin 2021, j'ai payé chaque séance 95 euros, remboursé par la sécurité sociale et puis une partie par la mutuelle. La première fois que j'en parle, c'est à mon collègue de travail, donc qui voyait bien que je devenais triste. Et pendant des semaines et des mois, il essaye de me faire sortir de cette emprise, de me faire ouvrir les yeux. Et je les ouvrais petit à petit, les yeux, je les ouvrais. Mais c'était très, très compliqué de me détacher de cet homme. Je n'arrivais pas. Alors j'y allais. Un peu à reculons, mais j'y allais quand même. Et je repartais, mais complètement déboussolée, effondrée, complètement perdue. C'est ce que j'ai ressenti quand j'avais 4-5 ans, quand je suis sortie de chez ce voisin, ce vieux monsieur, ce voisin de mes grands-parents. J'ai ressenti exactement la même chose. Avant que mon médecin traitant soit au courant de ce qui se passe avec ce psychiatre-là, lors d'une consultation, elle voit bien que je ne suis pas bien. Donc elle me dirige vers un autre psychiatre. Quand je vais le voir, je n'ose pas lui en parler parce que j'imagine qu'il y a une solidarité entre médecins. Je dis, il ne va pas me croire, il va me rejeter ou il va dire que je suis responsable de ce qui s'est passé. Donc je vais le voir, j'ai la boule au ventre. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, alors je lui dis bien entendu que je suis suivie par un psychiatre et que je souhaiterais être suivie par un autre psychiatre. Et il y va direct. Est-ce que vous avez été abusée par ce psychiatre ? Et là, je m'effondre en larmes et je lui dis oui. Je sanglote. Ça, dès la première séance, en fait. Il me dit qu'il n'avait pas le droit, que c'est une très grave erreur. Il m'encourage aussi à faire des démarches auprès de la justice, auprès du Conseil de l'Ordre. Et le médecin traitant, elle est catastrophée. Et elle me conseille d'aller à la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui prennent en charge les femmes victimes de violences. Et je me rends compte, en voyant la réaction des différents soignants, en fait, que ce n'est pas un comportement normal. Ils m'ont dit que si vraiment il avait eu un coup de cœur, il aurait fallu qu'il mette fin à la thérapie pour pouvoir vivre ce coup de cœur. Ou s'il ne pouvait pas gérer mon transfert, de faire en sorte de m'adresser vers un de ses confrères. Alors, je vois ce psychiatre pour la dernière fois. Je me souviens de la date, si je peux la donner. C'était un dimanche 2 octobre 2022. Je lui dis au revoir sans savoir que je le vois pour la dernière fois. Je commence à prendre conscience que finalement, il n'y a pas d'amour. Mais je continue à communiquer par message avec lui. Il me demande de venir très souvent, mais je prétexte. De la fatigue, un rhume, mes rendez-vous médicaux. En février 2023, avec l'aide d'une juriste de la Maison des Femmes, je dépose plainte. J'ai été convoquée un mois après. Le premier policier, il a pris ma plainte. Pour lui, c'était un viol sur majeur. Et il me dit que c'est pas sûr que la justice suive. Parce que je continuais à échanger avec le psychiatre. En fait, je ne faisais que répondre à ses sollicitations, répondre à ses mails. Ça a été très difficile de couper les ponts. Et ce qui a été très difficile aussi, c'est de lire que, en fait, votre psychiatre vous demandait l'autorisation avant et que vous répondiez oui. Donc, il y a eu consentement. Voilà. Le procureur a suivi. Le dossier a été classé sans suite en décembre 2023. J'étais tellement mal que j'ai pris l'initiative moi-même de déposer plainte auprès du Conseil de l'Ordre en juillet 2024. Et il a pas nié les faits. Il a dit qu'il l'avait fait pour moi. En fait, qu'il s'est fait passer pour un homme passerelle, pour me réconforter, pour montrer que il y a des hommes bons. Voilà, et que c'est en attendant de trouver un homme qui me rendrait heureuse. Et donc le Conseil de l'Ordre a entendu ces explications et du coup ils ont trouvé que mais il avait dépassé le cadre, quoi, qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Le pire des sanctions, apparemment, hein, c'est la radiation, mais bon, vu qu'il est à la retraite, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je suis entendue et je répare ce que j'ai vécu. Donc, oui, cette petite fille qui a été malmenée depuis l'enfance, qui a été malmenée jusqu'à finalement ce qui s'est passé avec ce psychiatre. Les médecins, les juristes, oui, ils me parlent du mot viol. Mais je ne le dis pas encore. Je vais parler plutôt de violence sexuelle. Le mot viol est tellement fort que il y a encore une partie de moi, je pense, qui n'arrive pas, qui ne veut pas le voir, en fait. Peut-être est-ce que j'attends que la justice finalement prononce ce mot pour que j'accepte de le dire. C'est peut-être ça.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Chloé, je suis enseignante, j'habite à Bordeaux et j'ai 40 ans. J'ai un petit frère qui a 5 ans de moins et une petite sœur qui a 1 an et demi de moins à peu près. Mon père était éducateur spécialisé et ma mère travaillait dans la pub, spécifiquement sur les prospectus qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres. J'ai eu une enfance plutôt heureuse. On était une famille plutôt soudée. L'adolescence se passe un peu moins bien que l'enfance, je dirais, où c'est une période plutôt troublée à la maison, où ça se détériore un peu. Quand j'avais 14 ans, mes parents s'entendaient pas très bien. Et en fait, ils ont commencé à consulter un psychanalyste. À ce moment-là, ils sont hyper enthousiastes. Je me souviens qu'ils m'ont expliqué qu'ils ont rencontré quelqu'un qui a changé leur vision de la vie. Quelqu'un qui va les aider à régler leurs problèmes, leurs conflits intérieurs, par la psychanalyse et par le travail sur l'inconscient. C'est dans le cadre d'une espèce de théorie qu'il a établie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Tout arrive, que ce soit une maladie, des accidents ou même le fait de naître, on l'a, de manière consciente ou inconsciente, choisi. Donc, quand on est malade, en fait, on pourrait se guérir grâce à la psychanalyse, ou en tout cas, prévenir les maladies grâce à la psychanalyse. Et c'est pas le petit rhume, ça peut aller jusqu'à très loin. Donc, un cancer, en gros, il dit la psychanalyse peut guérir le cancer. Il me raconte cette théorie, et en fait, moi, le premier réflexe que j'ai, c'est de leur dire « mais c'est n'importe quoi ». Je trouve leur enthousiasme étrange. Et quand cet homme se retrouve chez nous, parce que mes parents commencent à l'inviter par moments à la maison, on dînait ensemble, ou on prenait le café, et j'ai un réflexe où vraiment je le déteste en fait. Je déteste cet homme, c'est vraiment viscéral. Mais mes parents vont effectivement mieux, ils se marient, et ce psychanalyste est le témoin de leur mariage. Il s'attribue d'une certaine manière ce mariage qu'il a permis grâce au travail qu'ils ont fait avec lui. Et donc, il entre dans leur vie personnelle d'une manière qui est en fait pas normale. J'ai 15 ans à cette époque et j'ai un abcès assez grave. Et en fait, mes parents me demandent d'aller faire des séances avec lui parce que voilà, ça rentre dans la continuité de la théorie qui fait qu'on peut guérir par la psychanalyse et qu'en fait cet abcès c'est la psychosomatisation d'un problème mental, psychologique, d'un conflit interne que j'ai pas réglé. Et donc c'est comme ça que je commence les séances en fait. J'ai dû faire 4 séances seule avec lui. Donc j'arrive dans ce petit studio dans lequel il fait ses séances et il met une cassette dans un magnéto et il commence à enregistrer. Donc il m'explique, c'est comme ça qu'il fonctionne, après ça lui permet d'écouter, de continuer son analyse. Et là, en fait, ce qui commence, c'est une sorte d'interrogatoire. Comment tu te sens quand t'es avec ton père, quand t'es avec ta maman? Qu'est-ce que tu ressens comme sentiment vis-à-vis de tes parents? C'était aussi des questions, est-ce que t'as un amoureux? Est-ce que t'as déjà embrassé un garçon? Est-ce que t'as déjà aussi couché avec un garçon? J'étais extrêmement gênée. Mais je me dis pas que c'est pas normal, en fait. Je me dis juste, un psy, il a le droit, en fait, c'est son métier. Enfin, je me souviens aussi qu'il me demandait, est-ce que tu dors nu? Pourquoi tu dors pas nu? Il allait jusqu'à me demander si je m'épilais. Les parties intimes, c'est une intrusion dans ma vie, dans mon intimité, qui, moi, me choque un peu. Mais je me dis, c'est parce que c'est moi, je suis trop coincée, je suis trop secrète. Et là, il commence à appliquer ses théories sur mes parents, sur l'attitude de mon père vis-à-vis de moi, l'attitude de ma mère vis-à-vis de moi. Il commence à l'expliquer par des théories psychanalytiques inspirées de Freud, et notamment le complexe d'Œdipe. Normalement, c'est l'enfant qui peut avoir, à certaines périodes de sa vie, du désir pour le parent du sexe opposé. Mais là, en fait, ça prend une tournure qui explique que le désir viendrait des parents pour... les enfants. Et en fait, c'est plus pervers que ça, c'est-à-dire que c'est pas dit, il me dit pas ton père te désire ou il me dit pas comme ça en fait. Il va me dire est-ce que tu joues avec ton papa? Oui, il peut nous chatouiller, on rigole, et en plus ce qui est vrai, c'était que c'était des moments de joie et de bonheur. Et en fait, lui, il va me regarder en me disant "Ah ouais, il te chatouillait." Et il faisait rentrer l'idée qu'en fait, c'était pas innocent. Il a insinué qu'il y avait de la pédophilie, en fait, qu'il y avait de l'inceste, et que ma mère, ça je me souviens, elle me dit « ta maman, elle est jalouse de toi ». Donc, faut s'imaginer ce que ça fait dans la tête d'une adolescente d'avoir une lecture comme ça de sa famille, à un âge où on se construit, où le rapport aux parents, il est important, et on a besoin de se construire dans un environnement sain. Même notre frère, en fait, pouvait avoir du désir pour nous. Je pense que ça me pourrit totalement mes relations avec ma famille. Non, j'en parle à personne. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit à mes parents. Et ce qui se passe, c'est que 2 ans après le mariage de mes parents, ils décident de se séparer. Donc, mes parents se séparent, on est en garde alternée. Et assez vite, ma mère, en fait, nous annonce qu'elle est en couple avec le psychanalyste en question. Le sol s'ouvre sous mes pieds. Je me dis, mais quoi? Et la raison pour laquelle elle nous le dit, c'est qu'il va venir très régulièrement à la maison habiter avec nous, en fait. Donc, les 2 semaines où on est chez notre mère, il est là. Tout le temps. Cet homme à qui j'ai raconté absolument toute ma vie, toute mon intimité, va habiter avec moi. Sur le coup, je dis rien parce que je suis choquée. C'est après que ça commence à se gâter, quoi. Au quotidien, il continue. Il continue à nous sortir des analyses permanentes, à nous dire des choses... vous n'aimez pas votre mère, vous ne savez pas ce qu'est l'amour, vous êtes ingrat, vous êtes des enfants ingrats, vous êtes prétentieux. Il nous disait vraiment des trucs... horrible en fait. Quand on est adolescent, qu'on a en face de soi, à table, un psychanalyste qui me dit, je me souviens encore, t'as le sourire prétentieux de ton père, des trucs comme ça, c'est insupportable. Et en fait, moi, ce que je supporte pas à ce moment-là, c'est que je supporte pas la manière dont il traite ma mère. En fait, il était encore avec son ex-femme, avec qui il avait eu 2 ou 3 enfants. Et quand il téléphonait, quand sa femme lui téléphonait, il fallait qu'on se taise tous. Il fallait pas que sa femme sache qu'il habitait chez nous. Je trouvais ça insupportable, donc j'avais quand même 16 ans et j'allais sur mes 17 ans, donc je commençais quand même à avoir du caractère et à m'imposer un petit peu et à dire ce que je pensais. Et en fait, moi, je vais au clash. Et bon, voilà, je me souviens avoir cassé un verre, je me souviens avoir poussé une chaise. Et en fait, la relation avec ma mère est toxique, évidemment, puisqu'il a une emprise sur elle, qui lui dit très souvent des choses extrêmement blessantes, qu'elle se retrouve vraiment très malheureuse, parce qu'elle ne voit que lui, en fait. Toute sa vie, c'est lui. Ils sont restés ensemble 5 ans, après mes parents. Cet homme, il a eu une emprise sur ma famille pendant 8 ans. Et donc, ma mère réussit à sortir de son emprise et à se projeter dans une autre relation. Elle est avec quelqu'un de bien. Quelques temps plus tard, en fait, ma mère nous explique qu'elle lui a prêté 60 000 euros et qu'elle veut récupérer l'argent et qu'elle va lui intenter un procès pour récupérer cet argent. Ma mère a eu la présence d'esprit de lui faire signer une reconnaissance de dette. Et un jour, je reçois un appel, numéro masqué. Ça fait des années que j'ai pas eu de nouvelles de lui. Je l'ai mis aux oubliettes de mon cerveau, en fait. Et j'entends une voix qui me dit « Bonjour, est-ce que tu te souviens de moi ?» de manière assez dure. Et je lui dis « Ben non, c'est qui ?» Et là, il répond « Eh ben, souviens-toi bien. » Et il raccroche. Et à ce moment-là, je recolle les morceaux dans ma tête. Évidemment que c'est lui. C'est un procès. Lui, évidemment, ça doit bien l'embêter d'avoir à rembourser 60 000 balles. Donc, il m'appelle moi. Et il a cette hostilité dans la voix. Et en fait, pour moi, ça veut tout dire. C'est vraiment... Ben oui, il a voulu nous faire du mal. Il en a bien conscience. Et à ce moment-là, quand il m'appelle, il me dit « Tu te souviens comment j'ai pourri ta vie ?» Voilà. Et d'une certaine manière, finalement, cet appel, ça confirme, ça valide un petit peu le truc, quoi. C'est de se dire qu'en fait... Bah, j'ai pas déliré. Cet homme, il avait des intentions mauvaises, en fait. Il est venu, il a détruit notre famille. Et du coup, avec un comportement comme ça, avec cet appel, il n'y a plus de doute là-dessus. En fait, je pense que c'est difficile après ça, après avoir eu autant de... perversité mentale, de perversion ou de manipulation au sein d'une famille qui est censée être un endroit sain, qui est censée être un endroit où on est protégé, voilà, où on est en sécurité. Et moi, ça, je ne l'ai pas eu. Effectivement, en fait, vous avez l'impression de jamais être en sécurité. Et je pense que c'est difficile d'avoir des relations saines. Je pense que j'en ai souffert dans mes relations après, très clairement. C'est sûr. Je dirais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'arrive à comprendre ce qui est bon pour moi, en fait. C'est un peu ça. L'ironie du sort, c'est que ma mère est tombée malade et qu'elle est décédée quelques années plus tard. On a tous été victimes dans cette histoire. D'une espèce d'araignée qui a étendu son emprise sur la famille. C'est aussi pour ça que je ne peux pas en vouloir à mes parents, je ne peux en vouloir à personne. Comment imaginer qu'un être aussi manipulateur existe ? C'est pas normal, en fait, de laisser des hommes avoir ce pouvoir et être capable d'avoir une plaque, un cabinet et de se dire psychanalyste et de faire ça en toute impunité, en fait. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna leave you. 'Cause I wanna. And I'll go away. Love me, then I'll stay there. I gon' still love me. No more headaches, no more heartbreaks, no more, no more. I'm gon' leave you with your money. I want somebody.
C'était « Quand les psys abusent », un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Anne de Pelchin et Éric Lancien. Merci à Laure et à Chloé, l'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.
Yes, I'm gonna. I don't need you, baby. No more. I don't need you. No more.
no more, no more, no more.